Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'Amérique latine et la guerre en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué des réactions nombreuses du Rio Grande à la Terre de Feu, mais aucun pays de la région n'a adopté de sanctions économiques contre Moscou et très peu ont franchement condamné la guerre. Preuve de l'influence de Moscou dans la région, elle fut la première à envoyer ses vaccins Sputnik en Argentine, au Paraguay, au Nicaragua, en Bolivie et en Équateur. Seul Gabriel Boric, fraîchement élu président au Chili, a ouvertement critiqué Vladimir Poutine. Des différences de réaction qui témoignent de tendances qui s'opposent entre ceux qui ne souhaitent pas renverser l'ordre international libéral et ceux qui défendent une conception du monde ancrée dans un profond rejet de l'impérialisme américain. Regard avec nos invités. Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Le 25 février 2022, 13 pays latino-américains ont à l'OEA, l'Organisation des États américains, voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. 6 ne se sont pas associés à cette condamnation. Argentine, Bolivie, Brésil, Nicaragua, Salvador et Uruguay qui a rectifié son vote le 27 février. Le 2 mars, en Assemblée générale des Nations unies, la Bolivie, Cuba, Nicaragua et le Salvador se sont abstenus de condamner la Russie. Le Venezuela n'a pas pris part au vote. Les 14 autres pays latino-américains ont approuvé la résolution. Alors, les 4 abstentionnistes ont voté finalement comme la Chine et l'Inde, et les 14 autres se sont positionnés comme les États-Unis, les Européens et le Japon. Le 4 mars, la résolution de la Commission des droits de l'homme demandant la création d'une commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme en Ukraine résultant de l'agression russe a été votée par 5 pays latino-américains, 3 se sont abstenus. Est-ce que ces votes donnent, selon vous, une vue exacte des sentiments des uns et des autres? En tout cas, ce qu'on remarque, Olivier Compagnon, c'est que finalement, l'Amérique latine se présente plutôt en ordre assez dispersé.
Oui, c'est ça. Le premier constat, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une voix latino-américaine ou même deux voix latino-américaines opposées, par exemple, sur le conflit ukrainien, mais une multitude de positions différentes, et on peut difficilement faire l'économie du passage à l'échelle nationale pour comprendre un petit peu les différents enjeux. Cela dit, on peut quand même noter que 3 pays continuent d'apporter, pas nécessairement au travers de leur vote, mais dans le discours, un soutien inconditionnel au Kremlin. Et actuellement, c'est Cuba, c'est le Venezuela et c'est le Nicaragua. Donc des pays aujourd'hui qui à la fois sont désignés par la communauté internationale, non sans raison, comme des pays qui ont connu des virages soit autoritaires anciens ou récents, qui sont aussi pour 2 d'entre eux au moins soumis à des sanctions états-uniennes très importantes, et où Cuba et le Venezuela, et où évidemment la relation économique et financière avec la Russie est tout à fait essentielle. Par ailleurs, on a une deuxième catégorie de pays, vous avez cité le Chili de Boric, où on a eu des condamnations assez explicites de l'invasion de l'Ukraine. Et puis après, on a toute une série de pays, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, qui ont des positions intermédiaires. Je pense à la Bolivie, par exemple, qui, depuis quelques années, s'est rapprochée de la Russie, à la fois pour des raisons, une volonté, disons, de bâtir ensemble un ordre international multipolaire qui permettrait à l'Amérique latine de s'émanciper enfin de la présence états-unienne, en quelque sorte, mais aussi peut-être de la présence chinoise de plus en plus forte, mais aussi parce que la Bolivie a toujours considéré la Russie, notamment le rôle de la Russie au sein de l'ONU, comme un levier possible pour obtenir gain de cause sur ces vieilles revendications contre le Chili, cette vieille histoire de la fin du 19e siècle avec la privation par le Chili au terme d'une guerre de l'accès à la mer de la Bolivie. Donc voilà, enfin, on pourrait décliner toute une série d'exemples nationaux pour montrer que, en tout cas, il n'y a pas une voie latino-américaine aujourd'hui, c'est une Amérique latine relativement divisé qui se présente face à cette crise.
Christophe Ventura.
Oui, tout à fait. Il est clair que cet événement majeur que constitue la guerre d'invasion russe en Ukraine révèle à la fois toutes les vulnérabilités, les fragilités de l'Amérique latine avant qu'elle n'ait eu lieu. En particulier, cette incapacité finalement à avoir, disons, une voix commune, cette incapacité à avoir des convergences qui permettent réellement à cette région d'exister en tant que telle. C'était déjà le cas avant. Mmh. Comme, je dirais, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a déjà montré cette incapacité régionale des latino-américains à peser dans les affaires mondiales, eh bien, ce qui se passe en Ukraine le confirme avec tout ce qui a été dit sur les différentes sensibilités. Alors, juste pour en ajouter une illustration, on a parlé des pays qui sont plutôt pro-Moscou. C'est vrai qu'il y a aussi des pays qui ont pris des positions plus avancées contre Moscou. Je pense à la Colombie, je pense à l'Équateur.
Qui est très alignée, la Colombie, sur les États-Unis. Exactement. On aura l'occasion d'en parler.
Disons, je crois que les pays latino-américains sont déchirés entre à la fois leur crise interne, les logiques centrifuges qui font que ce qui pèse, c'est plus les positions nationales que réellement une vie régionale qui est fracturée, fragmentée, divisée par les oppositions affinitaires, etc. Mais aussi, les pays latino-américains sont pris dans cette affaire, dans leur système d'alliance qui a trois points fondamentaux. Il y a évidemment les États-Unis, la puissance tutélaire traditionnelle et la zone d'influence latino-américaine. Il y a la Chine, hein, désormais deuxième partenaire commercial des pays latino-américains et pour beaucoup d'entre eux déjà premier. Mmh. Et puis le troisième point, c'est les relations avec Moscou qui sont plutôt bonnes en fait. Hein. Je veux dire, l'histoire de la Russie et de l'Amérique latine a des racines profondes. Elle remonte même à la fin du 19e siècle si on s'intéresse à tout ça. Mais il y a eu la période de la guerre froide, il y a eu la période Spoutnik dont Olivier Compagnon vient de parler. Et puis il y a des coopérations qui ont été lancées avec la Russie depuis une dizaine d'années, depuis le virage des gauches, grosso modo au début des années 2000. Sur le plan énergétique, gaz, pétrole, nucléaire civil aussi, sur le plan des infrastructures, sur le plan agricole. Il y a des secteurs, c'est pas sur tout, mais sur certains secteurs, il y a, disons, une coopération assez avancée entre pas mal de pays latino-américains, et là, cette fois-ci, quelle que soit d'ailleurs leur opinion politique, et la Russie. Donc il y a plutôt des bonnes relations en fait avec la Russie, et je crois que ce que nous indique ce qui est en train de se passer, c'est que ces divisions latino-américaines, finalement, elles s'expriment, mais en même temps, elles montrent bien aussi quelque chose qui les regarde tous, c'est c'est-à-dire une certaine prudence quand même, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer, y compris par rapport, disons, à l'activisme des puissances occidentales dans cette affaire.
Alors, prudence, il faut dire aussi que finalement, l'Amérique latine est tout de même composée d'États aux souverainetés assez limitées, tout de même. Et dans ce vote pour ou contre la Russie, il est intéressant peut-être de revenir sur l'opposition pour certains systématique aux États-Unis. Olivier Compagnon.
Oui, alors, vous l'avez dit dans votre introduction d'ailleurs, je crois que c'est une des clés de lecture de la situation actuelle. Toute une série d'acteurs politiques aujourd'hui qui restent, à juste titre, sans doute, dans un imaginaire, je dirais, de guerre froide, qui voit dans l'impérialisme états-unien la cause de tous les maux qui pèsent sur l'ordre international. Évidemment, dans les pays qu'on a cités, hein, Nicaragua, Venezuela, Cuba, mais bien au-delà, parmi de nombreux intellectuels de gauche, un discours qu'on a pu entendre en France également d'ailleurs, à droite comme à gauche, qui attribuait à l'expansionnisme de l'OTAN, donc à l'impérialisme états-unien, hein, la première responsabilité de la crise ukrainienne. Et donc je pense que, plus encore qu'en Europe, cet héritage de temps long, hein, du sentiment anti-Yankee, comme on dit, pèse lourdement là-dessus. Même si je pense qu'il faut ajouter une nuance ici, qui est une nuance générationnelle. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que quelqu'un comme Gabriel Boric, 35 ans, qui n'était pas né quand la guerre froide jetait ses derniers feux sur l'Amérique latine, à mon avis, échappe complètement à cette logique-là, alors qu'effectivement, des acteurs politiques cubains ou vénézuéliens, ou des intellectuels uruguayens, colombiens, mexicains, restent très dépositaires de ce sentiment impérialiste qui, effectivement, biaise un peu la lecture de la crise ukrainienne.
Un commentaire peut-être, Christophe Ventura, et peut-être pour ajouter aussi au débat et avancer un peu, Olivier Compagnon l'a souligné, il n'y a pas eu d'expression régionale de poids, et finalement on s'étonne aussi que les plus influents parmi les pays latino-américains, je pense à l'Argentine, le Brésil, au Mexique, finalement ont été diplomatiquement plutôt peu actifs.
Oui, alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à avoir en tête. On a parlé des systèmes d'alliance, on a parlé effectivement de la tradition, disons, anti-Washington, qui nourrit, c'est vrai, la gauche latino-américaine en particulier, etc. Bref, il y a ça. Puis il y a aussi les traditions diplomatiques latino-américaines, qui sont de toute façon des traditions, alors là, encore une fois, je crois à peu près dans tous les pays latino-américains, qui sont des traditions qui sont basées sur la neutralité, qui sont basés sur le respect du droit international, parce que ça les protège aussi, c'est des petits pays, par exemple. C'est compliqué pour des pays même comme Cuba, qui sont pourtant pro-Moscou, d'aller justifier qu'une puissance puisse violer l'intégrité d'une frontière, occuper un territoire, etc. Parce que s'ils acceptent ça, Ça veut dire que, quelque part, ils justifient que les Américains puissent faire pareil pour eux. Or, c'est la limite, c'est la raison d'État cubaine que de s'appuyer là-dessus pour défendre sa révolution, etc. Donc, ils ont quand même cette tradition qui est ancrée. C'est le droit international, c'est la neutralité, c'est les principes de non-ingérence, de non-usage de la force dans le règlement des différends. Je rappelle quand même que l'Amérique latine, qui est quand même une région assez, assez particulière dans le panorama mondial, et ben, c'est une région qui s'est déclarée zone de paix. Encore il y a 10 ans avec la communauté des États latino-américains et caribéens. Donc c'est une région qui a rejeté l'option du nucléaire militaire, etc. Et ça, que ce soit des pays de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc si vous voulez, je crois que cette tradition des diplomaties latino-américaines, elle est vraiment ancrée et elle s'exprime. Elle s'est exprimée dans les votes. On voit bien les tiraillements qu'il y a eu par exemple dans le cas brésilien que vous avez cité, où Bolsonaro a été plus prompt à prendre des positions de défendre Poutine, qu'il avait visité, souvenons-nous, quelques jours avant le démarrage de la guerre. Somme toute, je ne suis pas sûr qu'il était informé quand il est arrivé à Moscou des desseins de Vladimir Poutine quelques jours plus tard. Je crois qu'il a été un peu manipulé en quelque sorte par Poutine de ce point de vue-là. Mais enfin, il avait quand même expliqué que le Brésil ne pouvait pas se permettre de rompre avec la Russie en matière de fertilisants pour le complexe agro-industriel, etc. Il avait expliqué ça. Et puis sa diplomatie, la diplomatie brésilienne, a poussé à ce que le Brésil vote favorablement les fameuses résolutions, en particulier celle qui s'appelait agression contre l'Ukraine au début du mois de mars, de mars, et le Brésil l'a voté. Et je crois que ça renvoie un peu à ces traditions-là, de toute façon, qui sont des pays de neutralité. C'est les doctrines, alors, elles s'appellent Estrada au Mexique, au Brésil, je viens d'en parler, et on peut trouver ça un peu partout, ce qui a même obligé les pays comme le Venezuela, etc., à la fin, n'a pas complètement non plus justifié ce qu'a fait Poutine. D'ailleurs, quand on regarde à l'arrivée, il y a des pays qui se sont abstenus, des pays qui n'ont pas pris part au vote. Mais remarquons qu'aucun pays latino-américain n'a voté contre les résolutions de l'ONU. C'est-à-dire, ils ne se sont pas ramenés au statut de la Corée du Nord ou d'Érythrée.
Au contraire, si tout je peux me permettre, de 2014, où il y avait eu un soutien latino-américain l'invasion de la Crimée, disons, un certain nombre de pays latino-américains n'avaient pas condamné à l'ONU l'invasion de la Crimée. Ce qui tendrait à prouver que, d'un point de vue diplomatique, la Russie a perdu des positions depuis 2014. Et je partage entièrement l'analyse que vient de livrer Christophe Ventura et à son insistance sur la notion de neutralité qui caractérise les diplomaties latino-américaines. Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai un mot qui est celui du grand pragmatisme aussi de ces diplomaties-là. Et ça, on le voit bien dans le cas argentin. Le président Fernandez, comme Jair Bolsonaro, s'est rendu en Russie quelques jours avant le début de la guerre. Et il s'est rendu dans ce grand pragmatisme des États latino-américains qui aujourd'hui, effectivement, ont pu s'émanciper de la tutelle commerciale et financière des États-Unis qui pesait jusqu'à la fin du XXe siècle en faisant intervenir d'autres acteurs, et notamment la Chine, mais qui aujourd'hui redoutent aussi d'être pris dans une nouvelle tutelle et qui essaient systématiquement de diversifier leurs interlocuteurs. Et donc, Fernandez va à Moscou, fait un certain nombre de déclarations. Donc, c'est vrai que ça c'est mal tombé, puisque 3 jours plus tard, la guerre éclatait. Un certain nombre de déclarations en disant qu'il souhaite que l'Argentine soit la porte d'entrée des intérêts russes en Amérique latine. Et évidemment, après, il se retrouve un petit peu coincé par ces déclarations. Mais au fond, moi, ça me rappelle, moi qui ai pas mal travaillé sur la Première Guerre mondiale, donc plus d'un siècle auparavant, ça me rappelle des choses qu'on observait déjà en 1914. C'est-à-dire que il y avait une série de positions de principe sur le droit international, etc. Et puis en même temps, une sorte de nécessaire pragmatisme. On ne peut pas déclarer aujourd'hui, par exemple, la guerre à l'Allemagne, parce que nous avons avec l'Allemagne des relations économiques et financières qui sont telles que ce serait nous mettre dans une situation impossible. Et donc, ça veut dire tout ça pour dire que le protagonisme, comme on dit en espagnol, protagonismo de l'Amérique latine sur la scène internationale, pour toutes ces raisons, apparaît très limité.
Oui, c'est ça. Et c'est la question, c'est ce sur quoi je souhaitais rebondir. Christophe Ventura, vous avez parlé de neutralité. On va détailler un peu les positionnements de chacun, les grands et le Venezuela. Mais tout de même, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est celui d'une Amérique latine qui est un peu en marge de la vie internationale.
Oui, je crois que c'est ce qui la caractérise après la montée en puissance de la décennie des années 2000, etc., où là, elle avait crevé un peu l'écran, l'Amérique latine.
Avec Lula, président du Brésil.
Avec Chavez, Morales, Correa, etc. Bien sûr, là, on est vraiment dans un autre cycle. L'Amérique latine s'est complètement remarginalisée dans les relations internationales, ne pèse pas dans les affaires du monde, parce que d'abord, encore une fois, elle n'arrive pas à exister en tant que région. Quand vous parlez à l'Amérique latine, vous ne savez pas à qui vous devez appeler, pour reprendre un peu la formule d'un certain président américain, d'un conseiller américain, pardon. En parlant de l'Europe, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs Amériques latines plus que jamais. Elle est divisée, fracturée, ce qu'on a dit, etc. Bon, donc du coup, cette situation-là l'empêche de toute façon de peser dans les affaires internationales. Et puis, les pays latino-américains sont pris dans un tel nœud de crise au pluriel depuis maintenant plus de 10 ans. Je veux dire, l'Amérique latine est la région du monde qui a le plus éprouvé, qui a le plus souffert les effets d'abord de la crise financière internationale de 2008, il faut quand même le rappeler. L'Amérique latine a traversé une décennie noire dans les années 2010 en termes économiques, qui a plongé la région dans les affres de retour à des questions de pauvreté, de faim, d'inégalité absolument incommensurables partout. Et si vous voulez, ils sont pris là-dedans, ils doivent survivre avec ça. Et puis, ils ont ensuite payé le prix fort de la pandémie de Covid-19, puisque c'est la région qui a encore le plus souffert de cette pandémie, la plongeant dans la pire crise de son histoire. C'est pas ma phrase, c'est celle de la Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL. Et donc, si vous voulez, tout ça a aiguisé, a exacerbé toutes les logiques disons, centrifuge, disons, où les gens essayent d'abord de régler leurs problèmes internes, confrontés à tout ça, et se projettent beaucoup moins, en fait, dans la vie internationale, dans la vie diplomatique, etc. Ils doivent essayer de s'accommoder de cette situation-là. Et donc, tout ça nourrit, en quelque sorte, cette marginalisation de la région, sans aucun doute.
Et à ces crises, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette première partie d'émission, Olivier Compagnon, à cette crise viennent s'ajouter les conséquences des sanctions à l'encontre de la Russie, qui ne seront pas sans impact sur l'Amérique latine.
Alors, justement, je voulais rebondir là-dessus, puisque Christophe évoquait les questions économiques des dernières décennies ou des 15 dernières années. C'est vrai que, par ailleurs, il faut prendre la mesure aussi des conséquences que cette guerre a d'ores et déjà sur les économies latino-américaines. Alors, là encore, c'est difficile d'avoir un discours trop général. On a une estimation par diverses, alors là, CEPAL a essayé de faire des estimations, la Banque interaméricaine de développement, et on dit qu'en gros, ne serait-ce qu'à l'échelle de 2022, la guerre va faire perdre à l'ensemble de la région 1 point à 1,5 point de croissance, dans un contexte où la croissance était déjà annoncée comme relativement faible. Hein. Après une année de 2021,
voire nulle,
où il y avait une croissance forte en 2021, qui était une croissance de récupération après le 2020, très marquée par la pandémie, on annonçait une croissance faible, et là, elle va être plombée, évidemment, par la crise. Alors après, évidemment, il faut différencier les cas. L'une des conséquences de la guerre, aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix, notamment des hydrocarbures, et là, évidemment, on a tout de suite des pays qui risquent d'en profiter, et qui vont, effectivement, pouvoir valoriser au mieux leurs exportations. Mais dans le même temps, on a un contexte général inflationniste qu'on observe partout aujourd'hui en Amérique latine, parfois dans des proportions absolument spectaculaires. C'est le cas du Brésil aujourd'hui, et qui va lourdement peser sur les populations.
Avec une inflation, quel niveau, Olivier Compagnon?
Je sais pas si Christophe...
Dans les pays américains actuellement, on est autour d'une 10-12%
en moyenne, ce qui est quand même absolument, absolument considérable. Et ce qui veut dire que toute une série de scénarios, justement, de sortie de crise sanitaire, où on réfléchissait sur les possibles diminutions des taux de pauvreté, etc., là, sont un petit peu annihilés par cette guerre. Et c'est aussi une dimension très importante pour comprendre les positionnements parfois très prudents des gouvernements par rapport à cette guerre. Surtout dans les pays où on a des contextes électoraux imminents.
Vous pensez à la Colombie, au Brésil, avec les élections cet automne.
Le Brésil à la fin de l'année, où effectivement se présenter devant les électeurs avec des taux d'inflation aussi importants n'est jamais une chose très favorable.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais peut-être vous souhaitez rajouter quelque chose très rapidement, Christophe Ventura,
oui,
en 30 secondes.
Oui, deux petites choses, c'est pour compléter mon propos. Vous parliez de la marginalisation, en fait, c'est derrière ça, c'est le thème de l'intégration régionale latino-américaine qui est derrière, et je dois dire que c'est plus traditionnellement le thème des gauches en Amérique latine, l'intégration, parce qu'en fait, ça renvoie à la question de l'affirmation régionale, de l'autonomie, de l'indépendance de l'Amérique latine. C'est moins le thème des droites latino-américaines qui sont plus naturellement, disons, organisées autour de l'OEA, de l'Organisation des États américains et de l'alignement aux États-Unis. Et ça a joué, puisqu'il y a eu aussi un virage à droite dans les années 2010 dont je parlais, pour compléter mon propos. Sur le plan politique, il y a eu un désengagement aussi de pas mal de gouvernements de ces questions-là. Mais comme dit Olivier, il y a des échéances électorales 2022 qui pourraient de nouveau refaire basculer le pendule vers quelque chose peut-être de plus avancé en la matière.
On vous retrouve, Christophe Ventura et Olivier Compagnon, après le journal. A tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
L'Amérique latine et la guerre en Ukraine. Nous retrouvons nos invités, Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. On a terminé la première partie de l'émission sur l'impact qui se fait déjà ressentir et qui va se faire ressentir dans ces prochains mois de la guerre en Ukraine. On a évoqué très rapidement la question de l'augmentation des prix, le gaz, le pétrole. On va détailler un petit peu sur les pays phares d'Amérique latine. La question du Venezuela, peut-être pour commencer, grand pays, anciennement grand pays producteur de pétrole. On a vu les Américains, les Nord-Américains se précipiter à Caracas. Je ne sais pas qui souhaite répondre en premier sur la question du Venezuela. Donc se précipiter à Caracas après avoir voué aux gémonies son président Maduro. Qu'est-ce qui se passe sur le Venezuela, Christophe Ventura? Est-ce qu'on peut imaginer une levée des sanctions des États-Unis à l'encontre du Venezuela, une reprise, et ça ne redémarre pas comme ça non plus, de la production de pétrole?
Je crois que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est un avant-goût de ce qui peut se passer à la suite de la guerre d'Ukraine. C'est que c'est une des petites illustrations, disons, une espèce d'apéritif, si je puis dire, si vous voulez, du fait que c'est une nouvelle époque géopolitique. Et dans ces moments-là, tout peut arriver. C'est-à-dire que tout ce qui était impossible la veille devient tout à fait possible le lendemain, de manière copernicienne, parce que c'est vrai que du coup, les États-Unis n'ont pas mégoté. Je veux dire, ils sont effectivement allés à Caracas pour discuter au palais présidentiel avec Maduro d'un échange qui est « vous nous fournissez de nouveau du pétrole ». Alors, sans rentrer trop dans les détails, on va expliquer juste pourquoi, parce que c'est très simple pour les Américains. Pourquoi ? Parce que toute l'industrie pétrolière vénézuélienne qui a démarré vers les années 10-20 du siècle dernier a été organisé, structuré, pensé pour s'intégrer dans la chaîne de production pétrolière énergétique des États-Unis. Donc toute l'industrie pétrolière vénézuélienne, elle est faite pour ça. Et pour les États-Unis, c'est la solution la plus simple parce qu'ils ont juste à rouvrir le robinet, remettre des nouveaux tuyaux un peu neufs, changer les joints, et puis ça arrive pour remplacer les 8% à peu près de pétrole russe qui arrive quotidiennement aux États-Unis pour la part de pétrole que les Américains importent. Parce qu'évidemment, les Américains sont autonomes énergétiquement, mais dans leur consommation quotidienne, ils continuent d'importer. Et les Russes étaient 8%, ce qui n'est pas énorme. Enfin, les Vénézuéliens, c'est exactement la part qu'ils garantissaient aux États-Unis jusqu'aux années, disons, à la fin, milieu des années 2000, 2010, par là. C'était la part que les États-Unis, même avec Chavez, envoyaient aux États-Unis. Donc, il s'agit de remettre ça en place. C'est très simple. La vie est compliquée. Chevron, qui est quand même une des principales majors du secteur aux États-Unis, est toujours au Venezuela, malgré les sanctions, malgré le délitement des liens entre Washington et Caracas. Ils sont toujours là, donc ils peuvent faire ça très vite. Ça peut marcher. Donc il fallait y aller.
Donc plus facile de demander au Venezuela ce qu'il souhaite davantage que de demander à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production de pétrole.
Tout à fait, c'est beaucoup plus simple. Et puis en échange, Maduro dit y a pas de problème, mais vous reconnaissez ma légitimité et vous levez les sanctions. Au jour où on se parle, on est toujours là, il y a des tractations, des discussions, je crois qu'il y a des expertises techniques sur tout ça. Et à mon avis, on va vers quelque chose qui va fonctionner. Il faut que les Vénézuéliens puissent passer d'une production aujourd'hui qui est erratique à peu près, qui est à peu près de 600 ou 700 000 barils le jour, à quelque chose où ils reviennent à 2-3 millions. Ça ne va pas se faire comme ça. On parle de quelque chose à minimum un an de choses. Mais il faut pour ça que les Américains lèvent leur position politique et les sanctions. Et Biden est dans un jeu compliqué par ailleurs, qui est la politique intérieure. Les midterms arrivent. La droite est déchaînée contre cette affaire. Je pense à monsieur, comment s'appelle-t-il, en Floride, Marco Rubio, etc., qui sont vent debout contre cette affaire-là. Et donc, pour l'instant, Biden, il compte ses voix. Donc, ça ne va pas se décider tout de suite.
Le tout dans un contexte, je le rappelle, où si le Venezuela ne s'est pas exprimé à l'ONU, puisqu'il est en retard de cotisation et donc ne prend pas part au vote, dans un contexte où Maduro n'a cessé de clamer son soutien à la Russie en dénonçant cette guerre comme étant la conséquence de l'impérialisme états-unien et, je dirais, de l'inconséquence des vieux empires coloniaux européens, je cite. Ce qui nous fait aussi relativiser la nature des grandes déclarations de principe de Washington depuis 2015 sur le fait que le Venezuela était infréquentable parce que devenu non démocratique. C'est une réalité. Il y a eu un vrai tournant politique au Venezuela en décembre 2015, etc. Mais on voit bien que les positions de principe des États-Unis sur la fréquentabilité d'un régime à l'aune de son niveau démocratique peuvent effectivement, à un moment donné, être relativisées quand les circonstances internationales l'imposent. Et je partage entièrement l'analyse de Christophe Ventura. Je pense, enfin, c'est une aubaine pour Maduro, en fait. Là Maduro a une chance incroyable dans la perspective, là encore, des échéances électorales qui approchent au Venezuela.
Alors, puisqu'on parle d'échéances électorales, je ne sais plus quand est la prochaine échéance électorale sur le Venezuela, mais on va parler d'un avenir un peu plus proche. Il y a deux pays, la Colombie, avec des élections ce printemps, peut-être tout début de l'été, et puis le Brésil. On parlait dans la première partie de l'émission d'une influence de la Russie qui s'est peut-être affaiblie, en tout cas depuis 2014, où il y avait eu un vrai soutien quand il y a eu l'invasion de la Crimée, que là, ce soutien à la Russie s'est un peu affadi. Les données peuvent changer en Amérique latine, Christophe Ventura.
Oui, bah là, on est dans une année qui est absolument passionnante pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine et au-delà, parce que c'est vrai qu'il va se jouer là-bas des choses d'une intensité assez forte sur le plan politique. Bah, c'est tout simplement le fait qu'au terme de l'année électorale là, qui est engagée, qui a commencé alors, fin décembre avec le Chili, le coup de semonce du retour de la gauche avec Boric dans ce pays, qui va donc arriver avec la Colombie le 29 mai pour la présidentielle où... Alors on se parle, tout indique que c'est aussi la gauche qui l'emporterait.
Pour la première fois dans l'histoire de la Colombie, ce qui est quand même
pas une petite affaire. Pour la première
Colombie,
fois,
grand allié des États-Unis dans la région.
On se rappelle que la dernière fois qu'un candidat qui progressiste en Colombie aurait pu l'emporter, il a été assassiné. Hein. Donc cette fois-ci, tout indique qu'il pourrait l'emporter. Et là, c'est quelque chose d'absolument copernicien, encore une fois. Mmh. La Colombie, on me parle quand même du principal allié des États-Unis, indéfectible depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Le pays qui est, lui, le plus avancé sur les positions de Washington actuellement sur l'Ukraine, qui vient de décrocher son statut de partenaire global de l'OTAN, c'est-à-dire d'être dans le premier cercle des pays qui ne sont pas membres, mais qui sont dans le premier cercle des amis de l'OTAN, qui leur permet d'avoir un accès plus facile aux informations, à l'armement, aux technologies, aux formations, aux opérations conjointes d'interopérabilité, etc. La gauche va arriver. Comment elle va se positionner sur tout ça? Ça va être passionnant. Ensuite, on aura le Brésil avec l'élection entre Bolsonaro et Lula, où là aussi tout indique aujourd'hui en tout cas que Lula l'emporterait. C'est, encore une fois, je n'ai pas besoin de décrire ce que ça veut dire. Donc on pourrait se retrouver à la fin de l'année avec une Amérique latine de nouveau plutôt alignée sur le centre-gauche et la gauche, ce qui peut probablement renforcerait aussi les alliances qui essayent de se mettre en place entre Alberto Fernandez en Argentine et López Obrador au Mexique, peut-être pour donner une dynamique là qui nous projette dans un nouveau scénario qu'on aura certainement à cœur de décrire.
Olivier Compagnon.
Sur la Colombie, c'est très important ce que disait Christophe, hein, c'est en décembre 2021 qu'effectivement le processus de rapprochement de la Colombie avec l'OTAN, qui avait commencé en 2013, notamment dans la grande défiance qu'avait la Colombie vis-à-vis du Venezuela et de son allié russe, hein, c'est au nom de la présence russe au Venezuela que la Colombie avait commencé des négociations avec l'OTAN. Et donc, c'est en décembre 2021 que ces négociations ont définitivement abouti. Et évidemment, avec tout ce qui pèse disons, en termes de responsabilité dans le discours d'un certain nombre d'intellectuels de gauche sur l'OTAN dans le déclenchement de la crise. Donc là, il y a un enjeu important. Sur le Brésil, simplement, soyons prudents, puisque si Lula gagne, tout indique aujourd'hui qu'il gagnerait, même si les écarts semblent se resserrer, ce ne sera quand même pas le même Lula, puisque le ticket qu'il vient d'annoncer avec Alckmin, qui est un acteur politique du centre-droit, fera nécessairement qu'un nouveau mandat de Lula ne ressemblerait vraiment pas à ces deux mandats des années 2000. Hein.
Donc, le social avait pris une importance très forte.
Oui,
il y avait ce rôle international de Lula dans les échanges sud-sud.
Exactement. Il n'est pas certain que ce ticket puisse permettre l'émergence d'une même puissance internationale du Brésil que celle qu'on a connue dans les années 2000. C'est à voir. Là, on est un peu dans la politique fiction.
Alors, ce sur quoi j'aimerais qu'on passe un petit moment maintenant, c'est la question de la présence russe en Amérique latine, de l'importance des échanges. Vous le disiez précédemment, Christophe Ventura, la Russie, a moins de cartes que la Chine en Amérique latine. Hein, la Chine qui est le deuxième partenaire, mais souvent le premier aussi. Qu'est-ce qu'il en est de la Russie très exactement et quels sont les domaines de coopération entre la Russie et l'Amérique latine? J'ai relevé les domaines militaires, alors qui est concerné? Énergétique et puis agriculture, c'est vrai pour le Brésil en particulier, qui importe, je parle sous votre contrôle, un cinquième de ses engrais de Russie.
Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est vrai également hein, pour
Olivier Compagnon.
C'est vrai au Paraguay, c'est vrai en Argentine, c'est vrai en gros dans les pays où le soja a pris une importance très forte depuis une vingtaine d'années et où les engrais russes jouent un rôle tout à fait important. Ça, c'est le premier domaine essentiel. Il y a un second domaine évidemment important qui est le domaine, on va dire, militaire et sécuritaire. Il y a toute une série de pays qui ont des accords partenariat
ceux militaire. Qu'on a mentionné précédemment, alors, Venezuela, Cuba, Nicaragua.
Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Ça, c'est les alliés traditionnels.
Surtout le Venezuela. Et 80% voilà. De l'armement russe, c'est au Venezuela.
Et là, on voit quand même un niveau de dépendance très important. Mais bon, il ne faut pas oublier la place qu'occupe de toute façon la Russie dans le marché de l'armement international. Mmh. Et il y a des flux aussi vers d'autres pays, par exemple vers la Bolivie. Mmh. Par exemple, vers la Bolivie. Ça, c'est le deuxième secteur. Il y a eu un troisième secteur qui a été très important quand même pendant la pandémie. On l'a déjà dit, mais rappelons-le, ça a été quand même le domaine sanitaire et l'aide importante qui a été fournie par la Russie en matière de vaccins et qui reste quand même dans un certain nombre de pays dans les mémoires. Hein, à un moment donné où il était très très difficile d'accéder à un certain nombre de vaccins plutôt produits aux États-Unis ou sous l'égide des États-Unis, là il y a eu une reconnaissance à la fois d'un certain nombre de gouvernements mais aussi des opinions publiques vis-à-vis des livraisons russes. Mmh. Et puis Christophe le mentionnait tout à l'heure, le dernier domaine, c'est le domaine énergétique, où un certain nombre de... Voilà, où l'ingénierie russe, ou d'ailleurs parfois anciennement soviétique, ouais. Disons, joue un rôle important dans le nucléaire civil. C'est le cas, par exemple, en Argentine, hein, où la place, disons, de cet héritage de la coopération de la fin du XXe siècle reste tout à fait importante.
Est-ce que, Christophe Ventura, alors je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Olivier Campagnon, mais est-ce que finalement l'Amérique latine est un ou n'est pas un objectif stratégique de la Russie ?
Alors, je vais continuer sur les questions économiques. Deux, trois petites choses pour compléter. Bon, en fait, la Russie, c'est quand même un poids léger hein, dans les échanges avec les Américains. Les échanges entre... La Russie, c'est moins de 1% des échanges éto-américains dans le monde. Donc, ce n'est pas du tout les États-Unis, ce n'est pas du tout la Chine, ce n'est même pas l'Europe, c'est d'ailleurs même pas le Moyen-Orient. Non, c'est plutôt petit. Bon, ça représente à peu près 15 milliards de dollars, les échanges entre la Russie et l'Amérique latine. Mais enfin, ça a quand même triplé depuis le début des années 2000 à la faveur donc, de ce qu'on expliquait tout à l'heure, des rapprochements politiques, des bonnes relations des années 2000, etc., entre la Russie et l'Amérique latine. Alors, la Russie est forte sur certains secteurs où elle est compétitive. C'est ce qu'a dit Olivier. Donc voilà, c'est là-dessus que ça se fait, en fait. Hein. Ensuite, sur la stratégie... russe, bah oui, il y a une stratégie russe en Amérique latine. La stratégie russe en Amérique latine, bah, c'est celle, un, de montrer que la Russie est capable de se projeter et d'avoir une politique extérieure globale, hein, en n'étant pas justement réduite à sa zone d'influence continentale, mais qu'elle trouve en Amérique latine des relais, des points d'appui pour certains secteurs qui sont pour elle importants dans son économie, ce qu'on a dit, évidemment... pour montrer que la Russie est capable d'avoir de bonnes relations à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec les États-Unis. J'ai envie de dire un peu, c'est comme une sorte de miroir inversé avec, pour le coup, un peu la stratégie otanesque qui a présidé jusqu'à ces derniers mois. C'est un peu la même chose en mode un peu moins structuré, en mode moins sécuritaro-militaire, mais c'est quand même ça que la Russie a comme stratégie avec l'Amérique latine sur la base de la guerre froide, en quelque sorte, hein, et l'héritage de la guerre froide où pour le coup la Russie était vraiment là pour le coup très très active. Donc c'est ça la stratégie russe là-bas. C'est une stratégie qui permet à la Russie plein de choses, d'avoir des votes avec elle dans tout un tas de dossiers au niveau, dans les arènes internationales diverses et variées. Je parle avant la guerre en Ukraine, hein, mais je veux dire à l'ONU, dans telle commission, dans les négociations commerciales, les négociations climatiques, etc. Si vous voulez, ça permettait à la Russie de jouer ce sur quoi Poutine avait construit une relation de confiance avec beaucoup de pays dans le monde. C'était justement le fait qu'il fallait un monde multipolaire, un monde qui diversifie la puissance, qui ne la concentre pas dans les mains unilatérales des puissances occidentales. Jusque-là, tous les pays latino-américains et surtout ceux de gauche signent des deux mains sur tout ça. Et puis aussi sur le fait qu'on respectait la non-ingérence, la non-agression d'un territoire souverain. Ce sur quoi il vient de montrer qu'il y avait certaines limites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, jusqu'à ce moment-là, bah, ça permettait à la Russie d'avoir quand même des alliés géopolitiques dans plein d'enceintes.
L'enjeu de la fabrique d'un monde multipolaire à partir du milieu des années 90, hein, une fois passée, je dirais, la transition entre l'Union soviétique et la Fédération de Russie, a été, je dirais, la clé de voûte des relations diplomatiques entre la Russie et le reste de l'Amérique latine. Je suis tout à fait d'accord, c'est un enjeu essentiel, et ça le reste aujourd'hui, et ça explique d'ailleurs les voyages qu'on évoquait tout à l'heure de Alberto Fernandez en Russie en en février dernier.
Est-ce qu'on peut imaginer une Amérique latine punie, entre guillemets, par Washington pour ses positions vis-à-vis de la Russie et de ce qui se passe en Ukraine?
Moi, je ne suis pas certain que Washington ait encore les moyens de punir. On en avait parlé d'ailleurs tous les trois dans cette émission après l'élection de Joe Biden et quelles conséquences ça pouvait avoir sur l'Amérique latine. Je ne suis pas certain que Washington ait encore les moyens de punir comme il pouvait punir, comme les États-Unis pouvaient punir pendant la guerre froide. Hein. On l'a rappelé aujourd'hui, la Chine est un acteur tellement important. Aujourd'hui, Washington est en position, je dirais, presque de tentative de reconquête d'un certain nombre de positions perdues. Reconquête qui paraît plus qu'incertaine, à mon avis, dans les années qui viennent. Donc la position de punir me semble compliquée.
Mais d'où l'importance de la reconquête du pétrole vénézuélien.
Par exemple, en termes économiques, c'est absolument essentiel. Un autre mot sur ce que disait Christophe, et qui là encore est essentiel. La stratégie russe, effectivement, vis-à-vis de l'Amérique latine, qui d'ailleurs a été aussi une stratégie française à un moment donné, entretenir de bonnes relations diplomatiques pour essayer effectivement de construire des majorités ou en tout cas des blocs dans les grandes arènes internationales. La Russie n'a jamais cessé de faire ça avec l'Amérique latine depuis le milieu des années 90. C'est précisément ce que la France aujourd'hui d'ailleurs n'est plus capable de faire depuis 5 ou 6 ans en ayant complètement déserté le terrain latino-américain, alors que ça avait été si important par exemple au moment de la COP 21. Hein, où l'Amérique latine avait joué un rôle si important au moment de la COP 21. Et ça, cette stratégie russe, elle est importante et à mon avis d'ailleurs elle perdurera au moment de la sortie de crise. Il y aura bien une sortie de crise en Ukraine.
L'Amérique latine intéresse la France quand la France a besoin d'elle, c'est un peu ça. Alors Christophe Ventura, peut-être un commentaire, oui, et quelques mots sur la Chine aussi et cette rivalité.
Alors, je crois que d'abord sur Washington, la guerre ukrainienne n'est pas un succès diplomatique pour les États-Unis avec l'Amérique latine, hein, pas du tout. Hein, je veux dire, regardez les votes au sein de l'Organisation des États américains. L'Argentine, c'est absolument en disant, mais l'OEA n'est pas légitime, n'a pas à intervenir, à s'exprimer sur un conflit qui n'est pas dans la zone continentale. Alors, c'est des arguments un peu, c'est du sophisme diplomatique, mais c'est parce que les Argentins, peut-être qu'ils y croient, et par ailleurs ils n'ont pas voulu justement dans les pas de ce que voulait Washington, c'est-à-dire une condamnation ferme et très forte de Moscou, mais aussi justement des prises de position en faveur de sanctions contre Moscou. Comme on l'a dit déjà, aucun pays latino-américain n'a pris de sanctions contre Moscou. Il faut entendre ce que ça veut dire. Hein. Il y a une condamnation morale, une condamnation de principe, il y a une gêne aux entournures par rapport à un partenaire avec lequel on a de bonnes relations, mais aucun pays latino-américain n'a pris des sanctions contre Moscou. Seule la Colombie, le Paraguay et l'Équateur, j'ai dit tout à l'heure, ont pris une position pour faire plaisir aux Américains qui consiste à dire, nous, on a accompagne les sanctions, en fait on les applique puisqu'elles sont prises par les Américains, on peut plus payer Swift et tout ça, donc on arrête nos exportations. Et Iván Duque, le président colombien, a une déclaration disant, nous on appliquera des sanctions si elles sont dans le cadre des Nations Unies ou de l'OEA, voilà ce qu'il a dit. En pratique, ça veut dire qu'ils ne prennent pas de sanctions, ils appliquent les sanctions américaines, mais aucun pays ne l'a pris. Et je crois que c'est au-delà de l'Amérique latine, une leçon de l'histoire là, qui est en train de se passer, c'est qu'attention, tous ces pays-là, indépendamment des difficultés qu'ils vivent, de leur position de périphérique dans le monde, de leurs complexes alliances avec les uns les autres, ne sont pas vraiment emballés par l'idée que les puissances occidentales puissent unilatéralement, comme ça, décider qui est bon, qui est mauvais, déconnecter un pays du fonctionnement international en toute chose. C'est pas quelque chose qui leur plaît parce qu'ils savent que c'est peut-être eux que ça peut concerner demain.
Un rejet d'une certaine façon de la toute-puissance, Olivier Compagnon, en guise de conclusion, 15
secondes. Oui, et on revient à des éléments qu'on évoquait en début d'émission. Là, on retrouve directement le legs, je dirais, du sentiment anti-impérial qui a animé tout au long du XXe siècle, une partie des élites latino-américaines et une grande partie des intellectuels également. Je crois que c'est une donnée majeure aujourd'hui pour comprendre la position régionale face au conflit ukrainien.
Merci pour cet éclairage tout à fait intéressant. Olivier Compagnon, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques géopolitiques, qui était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.